VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza est avec vous pour vous présenter ce journal. 5 corps criblés de balles ont été découverts mardi matin près de Gori dans le nord du Burkina Faso. Et un policier a été tué lundi dans l'attaque d'un poste de police à Karentenga dans la province du Bam dans le nord du pays. Un couvre-feu a été instauré dans toutes les provinces du nord où une restriction de la circulation des engins motorisés est également en vigueur. Dimanche, 15 civils ont été tués à Pobe-Mengao dans la province du Soum par des groupes armés, occasionnant une fuite des habitants vers Djibo, le chef-lieu de province situé à 25 km. Au Cameroun, au moins 42 personnes ont péri dans la nuit de lundi à mardi dans un glissement de terrain qui a emporté une dizaine de maisons à Bafoussam, à plus de 290 km de Yaoundé, dans la région de l'Ouest. De sources officielles, on fait état maintenant de plus d'une 40 morts. Notre correspondant Emmanuel Juntap fait le point.
L'espoir de retrouver des survivants du glissement de terrain survenu sur un flanc de colline au quartier Nkwashi dans la ville de Bafoussam s'est amoindri. Les équipes de secours constituées des sapeurs-pompiers, des agents de la Croix-Rouge, des militaires et gendarmes ont mené des fouilles jusqu'à la tombée de la nuit d'hier sans trouver de survivants. Mais au sorti du site difficilement accessible, le décompte macabre est passé au-dessus de 40 morts. Des photos d'enfants sortis des décombres et de 4 femmes enceintes, inertes, ont provoqué émoi et consternation. Dans la soirée, le président Paul Biya a adressé aux familles des victimes ses sincères condoléances. 2 membres du gouvernement ont été dépêchés à Bafoussam. L'un d'eux, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, tient une réunion avec les riverains ce mercredi. Il sera question de prendre des mesures d'aménagement de la zone sinistrée. Le gouvernement envisage clairement le déguerpissement de tous les habitants dont les constructions ne respectent pas le plan d'urbanisme et d'occupation des sols de l'arrondissement de Bafoussam 3e, épicentre de la catastrophe de lundi soir. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire a déposé une demande auprès de la CPI pour s'opposer à la libération sans condition de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ce dernier a été acquitté en première instance, mais est en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure Fatou Bensouda. Les détails avec Irénée Herman Ong.
L'État ivoirien sollicite l'autorisation de la Chambre d'appel de pouvoir à présenter des observations écrites sur la requête de Laurent Gbagbo visant à sa remise en liberté sans condition, écrivent les avocats Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoît qui demandent à la Cour de rejeter la requête déposée. Dans leur courrier de 7 pages, les deux avocats promettent, au cas où la Cour l'accepte, de transmettre un document plus complet qui viendrait étayer cette demande de rejet de la libération sans condition de Gbagbo. Les avocats de Laurent Gbagbo ont déjà déposé une requête pour demander la remise en liberté totale de leur client. La procureure de la CPI Fatou Bensouda a fait appel de l'acquittement prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé. Ils ont été libérés sous condition. Monsieur Gbagbo réside à Bruxelles et Blégoudé est resté aux Pays-Bas.
Irénée Ongbo. La Guinée-Bissau s'est enfoncée hier encore plus profondément dans la crise. Son premier ministre résiste à son limogeage par un président dont le mandat a expiré et le nouveau Premier ministre désigné est désavoué par la CEDEAO. Le point avec Bagassi Kour.
Le président José Mario Vaz a démis lundi soir le gouvernement d'Aristide Gomez et nommé mardi Faustino Imbali Premier ministre. Défiant le décret présidentiel, M. Gomez a réuni hier le cabinet déchu et a dénoncé des agissements visant à instaurer un désordre total en vue de la présidentielle du 24 novembre. La CEDEAO, qui a chargé en juin le gouvernement de M. Gomez de préparer la présidentielle, a déclaré hier le décret présidentiel illégal. Samedi, les forces de l'ordre ont réprimé une manifestation de l'opposition pour réclamer le report de l'élection. Le président Vaz, dont le mandat de 5 ans s'est achevé le 23 juin, brigue un second mandat. Il a fait état lundi d'une grave crise politique pour justifier le renvoi du gouvernement. M. Vaz a été exclu du PAIGC après avoir congédié du poste de Premier ministre Domingos Simoes Pereira, le chef de ce parti. Il avait encore refusé de le nommer à la tête du gouvernement après les législatives de mars. M. Gomez, qu'il avait finalement accepté de reconduire sur proposition de la CDAO, est lui aussi membre du PAIGC.
Bagassi, Koura, quelques 2000 étudiants algériens ont défilé dans la capitale Alger pour le 36e mardi consécutif d'un mouvement de contestation inédit réitérant le rejet de la présidentielle du 12 décembre et réclamant la libération des détenus arrêtés en lien avec le mouvement. Les étudiants accompagnés de citoyens ont défilé sans incident dans les rues de la capitale où la police était déployée en nombre. Le secrétaire d'État adjoint américain pour le Moyen-Orient, David Shanker, a déclaré hier au Congrès avoir demandé à l'Égypte de libérer la journaliste et blogueuse Asra Abdel Fattah. Il a qualifié son arrestation de scandaleuse et souligné avoir soulevé son cas avec l'ambassadeur égyptien à Washington. Asra Abdel Fattah, 41 ans, est l'une des fondatrices du mouvement du 6 avril en 2008, à l'origine de la révolte de 2011 qui a provoqué la chute de Hosni Moubarak. Elle a été accusée, entre autres, de collaboration avec une organisation terroriste. Une rencontre ministérielle entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se tiendra le 6 novembre à Washington au sujet du barrage sur le Nil bleu, au cœur des tensions entre les trois pays, annoncé mardi le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry. Le Caire craint que la construction du GERD, entamée en 2012 par l'Éthiopie, n'entraîne une réduction du débit du fleuve du Nil bleu, dont l'Égypte dépend 90% pour son approvisionnement en eau. Quelques 194 migrants secourus il y a plusieurs jours par deux navires humanitaires en Méditerranée vont être accueillis par la France, l'Allemagne et l'Italie, conformément à un pré-accord de répartition conclu par plusieurs pays européens à Malte en septembre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, l'affaire ukrainienne, un officier de l'armée américaine, membre du Conseil de la sécurité nationale, a témoigné devant les enquêteurs de la Chambre des représentants qui essaient de déterminer si le président Donald Trump a abusé de ses pouvoirs en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur un possible rival démocratique en 2020. L'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter Biden. Le lieutenant-colonel Alexander Windman a dit avoir été tellement préoccupé qu'il a alerté ses propres supérieurs. Je ne pensais pas qu'il était approprié d'exiger qu'un gouvernement enquête sur un citoyen américain. J'étais inquiet des conséquences pour les liens entre les deux pays et la sécurité des États-Unis, a-t-il expliqué. Le lieutenant-colonel Windman a écouté l'appel téléphonique du 25 juillet entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un Américain d'origine ukrainienne et un ancien combattant blessé pendant la guerre en Irak. Avant son témoignage, le président Trump avait écrit sur Twitter n'avoir jamais entendu parler de lui, l'accusant d'être un apôtre du tout sauf Trump, une allusion aux républicains qui lui sont hostiles. Jeudi, la Chambre des représentants, où l'opposition démocrate est majoritaire, votera pour la première fois en séance plénière pour formaliser l'enquête sur une éventuelle procédure de destitution et autoriser des auditions publiques. Une résolution à ce sujet prévoit de permettre au président Trump de se défendre à condition qu'il coopère à l'enquête, selon une copie rendue publique mardi. La Maison-Blanche a immédiatement dénoncé une arnaque. Et au Liban, le Premier ministre Saad Hariri et son gouvernement ont démissionné, et ce au 13e jour d'une révolte populaire contre la classe politique, accusé d'avoir laissé sombrer le pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'annonce télévisée de la démission du Premier ministre Saad Hariri a été accueillie par la joie des manifestants qui l'ont écouté en direct sur plusieurs lieux de rassemblement. Monsieur Hariri a assuré avoir voulu répondre, je cite, à la volonté de nombreux Libanais qui sont descendus dans la rue pour réclamer le changement. Le gouvernement qu'il dirigeait a été formé en janvier après 8 mois de tractations. Pour calmer la colère des Libanais, il avait annoncé le 21 octobre un plan de réforme dont des mesures anticorruption ce qu'ont rejeté les manifestants qui réclament le départ de l'ensemble de la classe politique jugée incompétente et corrompue. La population souffre de pénuries chroniques d'eau et d'électricité. Cette contestation populaire a explosé le 17 octobre après l'annonce d'une taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp. L'annulation de la mesure n'a pas empêché la révolte de gagner l'ensemble du pays.
En Irak, pour terminer, les deux principaux partenaires du Premier ministre Abdel Abdel Mahdi se sont entendus dans la nuit de mardi à mercredi pour lui retirer leur soutien alors que la contestation ne cesse d'enfler dans la rue.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.